Chapitre 2. 5 heures sonnaient le matin quand elle s'éveilla. Elle s'habilla promptement et sortit dans la campagne. Le ciel, très pur, annonçait une belle journée, mais la matinée était fraîche et Aliette, frileusement enveloppée dans une longue mante de voyage, erra à l'aventure jusqu'au moment où, remarquant une église, elle se dirigea de ce côté et entra dans un petit cimetière. La plupart des tombes étaient entourées de gros galets, des ifs et des cyprès penchaient tous dans la même direction, le vent de la mer leur imposant ce pli unique que les longues générations qui dormaient sous les pieds des vivants avaient regardé souvent, sans songer qu'elles-mêmes, pliées sous de mêmes brises uniformes. Il était si peu abrité, ce petit cimetière, que les plantes y desséchaient, que seules les pâles fleurs des dunes pouvaient y vivre et s'y épanouir. Des œillets minuscules à 5 pétales, d'un ton mauve passé et d'un parfum léger, fleurs étiolées mais vivaces des falaises ou des sables, dressaient sur toutes les tombes oubliées leurs tiges courtes et frêles. Des pins, dont le tronc entravé dans sa croissance par l'impitoyable brise, s'arrêtaient à fleur de terre, étendaient au ras du sol leurs branches maîtresses, tordues et contournées. Assise sur une pierre, dont la brisure partageait une inscription, déjà à moitié effacée par de la mousse brune et sèche, Mademoiselle de Sarzac jouissait par toutes ses facultés de la liberté des choses et des êtres. Elle suivait, en rêvant, le mouvement du flux et le jeu des mouettes qui couraient avec rapidité sur la grève, frôlaient l'écume blanche et, s'envolant pour se poser sur les flots, s'y laissaient balancer jusqu'à ce qu'un nouveau caprice les entraînât plus loin. Puis, revenant à certaines méditations qui lui étaient habituelles, elle se demanda pourquoi, dans le monde moral, il n'y avait pas une atmosphère aussi pure que celle de la nature. « Que sais-je et que voudrais-je » se disait-elle. « Je ne le sais pas moi-même. » Le malaise dont elle souffrait disparaissait habituellement dans les occupations absorbantes et même agitées de sa vie. Cependant, quand elle le croyait très loin, il revenait soudain, soit sur l'influence d'amertume, soit dans les jouissances de son art. Plus vive dans la solitude, en face de beauté qui excitait ses facultés, elle s'y abandonnait avec une sorte de volupté et s'étonnait que cette souffrance bizarre lui fût très chère. Elle se leva pour entrer dans la petite église romane. La messe était à moitié dite. Monsieur de Rilly communiait et Aliette, habituée à voir des hommes qui manifestaient un dédain moqueur et surtout une indifférence complète pour des pratiques religieuses auxquelles elle-même n'avait jamais participé, s'arrêta au bas de la nef pour songer « Comme ces Bretons sont dévots et superstitieux !» Elle remarqua la vulgarité extérieure du curé, l'ornementation de mauvais goût, si coutumière aux églises, et sortit pour aller s'asseoir de nouveau sur la pierre brisée. Mais ses yeux regardaient la mer distraitement, et, le cœur gonflé de regret, elle se disait « Ma place était dans cette vie régulière et respectée !» Puis sa pensée s'arrêtait avec obstination sur le mot résigné que M. de Rilly lui avait dit la veille. Elle revenait aux idées qu'elle entendait si souvent émettre chez elle. « C'est un esprit simple et routinier, songeait-elle. S'il avait vécu dans un autre milieu, il eût compris sans doute qu'il n'était plus de son temps. « Déjà levée et sortie, mademoiselle Aliette. « Mais vous aussi ?» répondit-elle en mettant sa main dans celle que M. de Rilly lui tendait. « Je viens assez souvent de bonne heure par ici, dit-il avec bonhomie. « Comme moi, par ce beau temps, vous avez été tentée de dire vos prières à l'église ?» Elle rougit en répondant « J'admirais cette vue. C'est joli, très joli, mais nous y sommes trop habitués pour y faire grande attention. C'est cela, routinier, pensa-t-elle. Et pourtant, ainsi que je vous le disais hier, ce sera bien dur de ne plus la voir. À ce propos, je voulais vous demander de ne pas parler à ma femme de mes inquiétudes. J'évite de toucher ce sujet avec elle, il lui fait trop de peine. Comment la trouvez-vous, ma femme ? Dit-il en changeant de ton et avec l'espoir naïf de recevoir des compliments. « Bien bonne !»« Oh, parfaite, et nous nous aimons comme au premier jour. Lorsque nous serons vieux, nous ressemblerons à Philémon et Baucis, mademoiselle Aliette. » Mademoiselle de Sarzac, dans toute autre circonstance, eût ri d'un sentiment qui transformait si singulièrement la réalité, mais l'extrême bonhomie de M. de Rilly désarmait la moquerie, et, bien qu'elle s'amusât des contrastes observés, son impression n'avait rien de désobligeant pour le vieux ménage. « Pourquoi donc ? » lui demanda-t-elle à brûle-pourpoint. « M'avez-vous dit hier, en me parlant du malheur que vous prévoyez, que la volonté de Dieu soit faite ?»« Comment ? Pourquoi ?» s'écria M. de Rilly en s'arrêtant brusquement. « Oui, pourquoi ? » insista-t-elle. Il était loin de supposer que cette question devenait, dans le cas présent, un point d'interrogation embrassant toute la vie morale. Sa réponse fut celle d'un simple qui n'a jamais parcouru aucun chemin de traverse. « Cela doit être, c'est mal de se révolter. »« Pourquoi donc ? Qui vous a appris cela ? Vous croyez donc sincèrement à l'existence de Dieu ? » ?»« Qui m'a appris ? Mais le catéchisme, l'évangile. Si je crois à... » « Mais assurément, » dit-il machinalement, en la contemplant avec stupéfaction. Elle rêva quelques instants avec tristesse avant de répondre. « Je comprends votre étonnement. Les jeunes filles que vous connaissez ont certainement été élevées dans un ordre d'idées dont on ne m'a jamais parlé, si ce n'est pour me convaincre de sa fausseté ou de son absurdité. » « C'est une grande erreur, » dit M. de Rilly. « Je n'en sais rien. » répliqua-t-elle avec mélancolie. Elle s'absorba dans ses pensées et ils revinrent au manoir sans qu'elle parût songer à son compagnon. Il courut chez sa femme pour lui raconter la plus étrange découverte qu'il eût jamais faite et il trouva Madame de Rilly dans une grande agitation. « Vois quelle lettre je viens de recevoir !» lui dit-elle. Une amie lui écrivait pour lui conseiller de se défier de la baronne qui passait pour commettre des escroqueries et empruntait de tous les côtés. « Absolument déclassée, disait la lettre, elle vit d'expédients plus ou moins louches. Seulement, on n'a jamais parlé d'elle au point de vue des mœurs. « Je ne crois pas à tout cela, s'écria Madame de Rilly. La pauvre Jeanne est une victime de son mari, de la ruine, des circonstances qui l'obligent à voir un monde particulier. Ce matin encore, elle me disait qu'elle en souffrait tant. On soupçonne bien vite la délicatesse des gens quand ils sont malheureux. Sa réputation est détestable, beaucoup plus mauvaise que je n'aurais pu le supposer, répondit M. de Rilly. Je regrette que tu l'aies invitée. Je l'ai connue si jeune. « Je suis bien sûre qu'elle n'a jamais agi d'une façon déshonorante, » reprit Madame de Rilly, dont la bonne nature ne pouvait croire au mal et surtout à une complète déchéance. « En tout cas, elle a bien mal élevé sa pauvre fille. « Ah, au point de vue religieux, elle a les plus étranges idées, » répondit Madame de Rilly, toute rouge encore, au souvenir d'une discussion qu'elle avait eue une demi-heure auparavant avec la baronne. Mais elle s'est excusée avec tant de vivacité de blesser mes sentiments que je ne puis lui en vouloir. Paris l'a perdue, répondit sentencieusement M. de Rilly. Quel dommage qu'on ne puisse pas la mettre à la porte. La singulière idée, s'écria Madame de Rilly. Observe-la bien et tu verras qu'elle est calomniée. Son extérieur plaide pour elle, évidemment, et peut-être cette lettre renferme-t-elle des exagérations. « Mais, enfin, nous avons versé le vin, buvons-le. Quant à cette jeune fille, elle est charmante et m'intéresse. »« Je vais mettre mes livres de piété dans sa chambre, » répondit vivement Madame de Rilly. « La pauvre enfant, si elle se tourmente, nous devons l'aider. » La baronne démêla promptement qu'un fait grave s'était glissé entre elle et ses cousins. Elle attribua leur contrainte à sa sortie antireligieuse qu'elle se reprochait comme une insigne maladresse. Très passionnée sur ce point, c'était peut-être le seul sujet sur lequel elle ne put ni se contraindre ni dissimuler. Mais elle avait le don de séduire, de captiver. Elle était, selon un vieux mot familier, une enjôleuse, et le soir de ce même jour, M. de Rilly disait « Décidément, j'ai bien de la peine à croire que cette femme-là ne soit pas outrageusement calomniée. » Mademoiselle de Sarzac, en entrant dans sa chambre, remarqua aussitôt les livres de sa cousine. mais sans penser, platement écrit et modèle de ses singulières productions pieuses, dans lesquelles la moelle a disparu pour ne laisser rien que des mots, ils produisirent l'impression la plus désagréable sur l'esprit de la jeune fille. « C'est du fétichisme, c'est creux et enfantin !» se dit-elle avec dédain. Se renfermant alors dans ses pensées, elle ne posa plus aucune question pendant son séjour chez ses cousins et répondit assez vertement à leurs allusions. Ces braves gens avaient la main lourde et la sincérité, la solidité de leurs convictions s'ensevelissaient sous de déplaisantes surfaces qui eussent frappé désagréablement même une intelligence moins ignorante que celle d'Aliette et capable de démêler le bon grain dans l'ivraie. Néanmoins, les 5 jours passés dans un milieu qui eût été son élément naturel lui parurent les moments les plus heureux de sa vie. Chaque matin, elle retournait dans le petit cimetière aride qu'elle aimait et s'y laissait imprégner de sensations profondes qui captivaient toutes ses facultés. Le vague de ses aspirations la faisait souffrir, mais elle les cherchait avidement, comme si elle dût se l'aider à percer l'obscurité dans laquelle vivait son esprit. À son insu, sans pouvoir raisonner, elle subissait cette puissance secrète de la nature qui, ainsi que les impressions élevées dues à son art, l'entraînaient vers une vie supérieure. « Que j'ai été heureuse ici !» dit-elle au moment du départ, avec une mélancolie dont sa cousine fut touchée. « Il faudra revenir après le concert, » répondit Madame de Rilly, qui ne pensait plus à la baronne. « Nous serons toujours heureux de vous avoir. » « Non, répondit Madame de Sarzac, nous partirons pour Paris après-demain. J'ai reçu une lettre qui m'oblige à quitter la Bretagne. » Le soir de leur entrée à Brest, Aliette, qui voulait parler à sa mère d'un projet qu'elle caressait avec un espoir bien chimérique, entra assez tard dans la chambre de la baronne et fut très étonnée de la trouver absorbée dans l'examen d'un diamant qu'elle avait vu au doigt de sa cousine. « Comment ? » s'écria-t-elle. « Mais c'est la bague de Madame de Rilly. »« Je ne puis souffrir qu'on entre ainsi dans ma chambre !» s'écria Madame de Sarzac avec emportement. « Mais j'ai frappé !» répondit Aliette. « Et puis, qu'importe ?»« Il importe que je voulais précisément t'éviter une contrariété, puisque tu as des idées à toi. Marthe m'a donné son diamant lorsqu'elle a su combien nous étions malheureuses, car sa fortune ne lui permettait pas de me prêter de l'argent. » « Aurons-nous donc toujours besoin des autres et de leurs cadeaux ?» répondit Aliette avec amertume. « Travaillons et n'acceptons rien. »« Allons, j'étais sûre d'avoir une scène et voilà ce que je voulais éviter, » répliqua sèchement la baronne. « Tu travailles et je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je ne pouvais pas refuser Madame de Rilly sans la blesser et un cadeau d'ami n'a rien de déshonorant. » « Eh bien, changeons complètement notre manière de vivre, ma mère !» s'écria Aliette avec ardeur. « J'y ai beaucoup pensé pendant que nous étions là-bas. Louons une petite maison dans ce pays où la vie n'est pas chère. Avec votre rente et quelques concerts de temps en temps, quelques leçons aussi, nous vivrons très bien. »« Agréable existence !» répondit ironiquement Madame de Sarzac. « Quoi ?» reprit Aliette avec véhémence. « Trouvez-vous donc plus agréable ces visites renouvelées au Mont-de-Piété, ces emprunts à des gens que nous connaissons à peine, ces menaces de saisie qui vous ont obligé plus d'une fois à vendre votre mobilier ? Avons-nous besoin de toilettes, d'habitudes confortables que nous nous donnons au prix de notre tranquillité et d'autres choses encore ?» ajouta-t-elle plus bas. « Quelle autre chose ? » demanda aigrement Madame de Sarzac. « Au prix de l'honorabilité !» Car si c'était bien, serions-nous tenus à l'écart de notre monde ? Notre monde, nous nous en sommes éloignés volontairement, ton père et moi, n'étant plus assez riches pour le fréquenter. Tu ne vois que la surface des choses. Je me donne une peine inouïe pour vivre et te faire vivre, et tu m'adresses des reproches. Il y a des centaines de gens comme nous qui se tirent d'affaires comme ils peuvent. Aliette sortit précipitamment, craignant de ne pas se contenir. Quelques instants après, les accents de sa voix dramatique exprimaient les sentiments qu'elle n'avait pu laisser échapper. Elle passa une partie de la nuit à sa fenêtre, nuit dont le silence enveloppait sa tristesse pour la pacifier, dont la pureté appelait cet esprit vers l'inconnu qu'il cherchait. elle s'abandonnait au trouble intime qui était en même temps pour elle un soutien et une souffrance, et se répétait « Où est-elle, cette vie que j'ignore ? Existe-t-elle ? Y a-t-il sur un terrain que je ne connais pas un endroit reposant où n'existent que la beauté et le bien ?» Le lendemain, afin d'échapper aux influences d'idées irritées ou pénibles qui neutralisaient le sentiment dont elle avait besoin pour réussir, elle appela à son secours les pensées que lui exprimaient les jours derniers le langage mystérieux d'une pâle fleur des dunes, d'une brise pure ou de la vague qui berce et fait rêver. En exerçant sa voix, elle les harmonisa dans son esprit avec sa conception d'artiste. Et, transportée loin des vulgarités qu'elle haïssait, elle se sentit sous l'empire de cette divine excitation qui est la fécondation du talent. « Je suis sûre de moi pour ce soir !» dit-elle gaiement à M. et Mme de Rilly qui arrivèrent dans l'après-midi. « C'est bien aimable de n'avoir pas attendu l'heure du concert pour nous voir !» ajouta-t-elle en remarquant avec surprise que la baronne avait pâli en voyant ses cousins. « Nous nous sommes décidés à dîner ici, et nous nous réjouissons bien de vous applaudir !» répondit M. de Rilly en baisant la main de sa jeune cousine avec une grâce surannée qui la fit sourire. « Je vous prédis que vous passerez à mon gré par les impressions les plus opposées, » dit-elle en riant. « Tant mieux, » répondit Mme de Rilly, « vous me ferez oublier une grande contrariété. »« Quoi donc ?» demanda Aliette. Avant que Mme de Sarzac, qui avait fait un mouvement involontaire, pût prévenir ou empêcher une réponse qu'elle redoutait, Mme de Rilly répliqua « J'ai perdu le gros diamant que je vous montrais l'autre jour. Je tenais beaucoup à ce bijou, d'abord à cause de sa grande valeur, ensuite... » Une exclamation pleine d'angoisse l'interrompit. Aliette s'était levée et regardait sa mère avec une expression d'effroi intense. La baronne s'avança vivement vers sa fille en disant « Tu es malade, j'étais bien sûre que tu avais trop travaillé !» Et tout bas, en feignant de la soutenir, elle lui dit précipitamment « Tais-toi, on ne saura rien, je te défends de parler !» Mais Mademoiselle de Sarzac, se dégageant, recula en étendant les bras, comme pour empêcher sa mère d'approcher, et se laissa tomber dans un fauteuil en gémissant. « Il faut un médecin !» s'écria Madame de Rilly en courant à Aliette. « Elle sanglote » ajouta-t-elle avec surprise. « Laissez-moi seule avec elle !» dit la baronne. « Je connais le moyen de faire passer la crise. Elle a chanté toute la matinée et les nerfs ont été trop tendus. » « Non, restez, ce n'est rien !» dit Aliette d'une voix entrecoupée. Elle prit la main de sa mère et, l'obligeant à se pencher vers elle, lui murmura très bas, mais avec un accent résolu « Trouvez une explication et rendez la bague, vite, vite, à l'instant où je dis tout !» Madame de Sarzac vit, à l'expression de sa fille, qu'elle ne devait pas hésiter. Durant cette minute terrible, elle conservait son sang-froid et cherchait dans son esprit fécond en expédients le moyen de franchir un redoutable pas. « Ce n'est pas la première fois, » dit-elle avec émotion en revenant vers ses cousins, « que ma pauvre Aliette a des crises nerveuses quand elle s'est trop surexcitée, mais un peu de solitude la calmera. Que disiez-vous donc, ma chère Marthe, avant cet incident qui m'a bouleversée ? Vous parliez d'une grande contrariété. » « Ah, votre diamant, mais il est ici. J'ouvrais la bouche pour vous le dire quand nous avons été interrompus. »« Comment, ici ?» s'écria Madame de Rilly. « Je l'ai trouvé dans ma malle hier soir, accroché à la garniture d'une robe. Évidemment, vous l'avez laissé tomber en venant dans ma chambre. Je vous l'aurais renvoyé si je n'avais trouvé plus sûr de vous le remettre ce soir directement. » Elle alla chercher la bague qu'elle remit à sa cousine en disant avec le plus grand naturel « Si j'avais su, j'aurais suivi ma première pensée qui avait été d'envoyer un exprès à la garenne. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait puisque vous vous êtes aperçue tout de suite de la perte de votre bijou. Oui, mais le voilà, j'en suis bien contente et vous avez agi pour le mieux, » répondit Madame de Rilly qui ajoutait une foi complète à l'explication de sa cousine. « Voulez-vous que je fasse demander un médecin pour Aliette ? Elle est si pâle !» Affaissée dans son fauteuil, les traits décomposés, Mademoiselle de Sarzac regardait sa mère avec une expression désolée qui frappait M. de Rilly. Non, un médecin est inutile, répondit la baronne. Mais retirez-vous, je vous en prie, elle va se calmer et vous reviendrez plus tard si vous voulez. Le bruit de la porte qui se refermait sur les rillis sortit Aliette de sa stupeur. En voyant Madame de Sarzac approcher, son visage s'empourpra. De ses deux mains, elle voila sa honte en disant avec un accent de désespoir pénétrant « Vous en êtes là ?» Ce cri et ce geste éloquent portèrent au plus haut point l'irritation de la baronne. Elle prit le bras d'Aliette, la secoua presque brutalement, en disant « Misérable, misérable enfant, qui aurait vendu ta mère !» Mademoiselle de Sarzac la regarda en face et répondit « L'auriez-vous rendue ? À mon heure, oui. Comment oses-tu me juger ?»« Ah ! » s'écria-t-elle, « je ne juge pas, je souffre affreusement. » « Et moi, crois-tu donc que je ne souffre pas? N'est-ce pas horrible d'être traitée de voleuse par sa fille? Attends de connaître les faits avant de juger. Dans ma pensée, ce n'était qu'un emprunt. Au Mont-de-Piété, on m'eût donné une forte somme sur ce diamant. Je l'aurais dégagé dans quelques mois et renvoyé à Madame de Rilly sans qu'elle pût se douter de rien. Oui, c'était bien là mon plan. » Elle le croyait et s'approuvait. Dans sa conscience oblitérée, n'existait plus, depuis nombre d'années, nul élément de probité et de sens moral. C'est par de semblables raisonnements, d'abord timides, puis de plus en plus hardis, qu'elle avait roulé au bas de la pente. « Sans ma malchance habituelle, qui donc aurait connu mon emprunt ? » reprit-elle. « Les Rilly ne devaient pas nous revoir avant le concert, pendant lequel, évidemment, ils n'auraient rien dit, et j'étais décidée à partir demain matin afin d'éviter ce qui est arrivé. De vains scrupules, quand, au fond, on ne fait aucun mal, sont bien absurdes. » Pour la première fois, Aliette mesurait la profondeur de l'abîme, car si sa mère l'avait parfois bouleversée, ce n'était pas devant un fait brutal entraînant le déshonneur. « Comme vous vous trompez vous-même » murmura-t-elle avec terreur. « Tu ne connais pas notre position, elle est désespérée et je ne trouve pas d'argent. » « Mais vous la rendiez plus désespérée encore !» s'écria Aliette avec énergie. « Comment, dans quelques mois, auriez-vous trouvé le remboursement dont vous parlez ? Et c'était la honte, le déshonneur. Ne le voyez-vous pas ? Si les circonstances m'avaient servi, nul n'aurait rien su. » Mademoiselle de Sarzac s'assit, accablée, sans essayer de raisonner. Il lui était bien impossible de comprendre la nature basse et dévoyée de sa mère. Une vie sans satisfaction matérielle, sans aisance apparente, qui satisfit ses goûts et sa vanité, inspirait une véritable horreur à Madame de Sarzac. Ensuite, née avec l'amour de l'intrigue, il y avait pour elle de véritables jouissances dans les compromis au milieu desquels, depuis des années, elle se dirigeait avec habileté, évitant les écueils et les chutes apparentes. Aliette, jusque-là, avait ignoré les dessous les plus honteux de cette existence, et même alors, la vérité ne lui apparut pas complète. Elle crut à un premier égarement, à une défaillance subite. « Et dans quelques heures, il faut que j'agisse, que je chante !» s'écria-t-elle en sortant tout à coup de son accablement. « Oh, l'horrible vie !» Mais par un subit effort, elle essaya de se calmer, de se reprendre elle-même en disant « Il le faut, il le faut. Je chanterai, je réussirai. Tout repose sur moi. » Sans répondre à sa mère qui lui parlait, elle se réfugia dans sa chambre et, se jetant sur son lit en sanglotant, elle versa des larmes désespérées qui la détendirent.